Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'étais à l'église du CEP et généralement, quand on est invité à une autre église, on dit c'est une joie pour moi d'être là parmi vous, etc. J'aimerais le dire aussi ici. Voilà, c'est une joie pour moi d'être avec vous cet après-midi. Une vraie joie de pouvoir avoir cette occasion tout simplement de partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est vrai que pour nous, c'est une immense grâce de pouvoir plonger nos regards dans cette parole que nous avons dans nos mains. C'est un privilège parce que on sait que aussi pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, on en a parlé la semaine dernière, eh bien, ce n'est pas toujours chose évidente. Et dans le prolongement de ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait commencé à aborder la première épître de Pierre, le premier chapitre, où justement Pierre loue Dieu, bénit Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie des croyants. Et bien sûr, nous sommes directement concernés. Et j'aimerais poursuivre par l'étude de ce texte au chapitre 2, et nous allons le lire ensemble. Du moins, je vous invite à suivre la lecture de ce texte que j'ai pris dans la version Colombe, une version un peu plus littérale et qui semble, à mes yeux en tout cas, rendre justice au texte original. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez cette trace, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Pour rappel du contexte, c'est aux chrétiens dispersés de 5 provinces romaines d'Asie mineure que Pierre adresse cette lettre. Sans doute qu'il s'agissait de plusieurs communautés qui ont eu l'occasion de lire cette lettre. Et Pierre sait que ces chrétiens sont éprouvés à cause de l'hostilité qu'ils rencontrent dans leur entourage social. Ils connaissent des persécutions, certes peut-être légères par rapport à ce que d'autres vont connaître beaucoup plus tard et aujourd'hui encore, mais quand même des persécutions. Et Pierre veut, par cette lettre, les encourager en leur rappelant d'abord ce que Dieu a fait pour eux. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Ce que Dieu a fait pour eux dans sa grande compassion. Dieu les a choisis. Dieu leur a donné une vie nouvelle. Dieu leur a donné une espérance vivante avec l'assurance qu'il les garde par sa puissance pour le salut qui a encore à venir. Et de ce fait, Pierre les exhorte à vivre une vie sainte, en conformité avec ce qu'ils sont maintenant et non plus avec ce qu'ils étaient autrefois. Et en effet, désormais, rachetés par le sacrifice de Christ, ils sont membres du peuple de Dieu, du peuple qui appartient à Dieu. Oui, dans sa grande compassion, Dieu a fait cela pour eux. Et nous pouvons tout aussi bien affirmer que Dieu a fait cela pour nous, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ. Dieu a fait cela pour nous. Et dans le texte que nous venons de lire, nous en venons à des considérations pratiques, comme autant d'implications de ce que signifie appartenir à Dieu. La question qui se pose, c'est comment celles et ceux qui ont bénéficié d'une si grande compassion de Dieu, comment ces personnes-là doivent-ils vivre désormais parmi leurs contemporains qui ne connaissent pas Dieu? Ou pour le dire autrement, comment des chrétiens doivent-ils vivre au milieu d'un monde qui ne connaît pas Dieu? Et nous pouvons résumer la réponse en ces termes, en ayant une bonne conduite. En ayant une bonne conduite. Et cela mérite que nous puissions nous pencher de plus près sur ce que Pierre est en train de dire ici. Et d'abord, la première exhortation, ayons une bonne conduite en tant que peuple de Dieu. Et avant de nous intéresser à ce que signifie avoir une bonne conduite, j'aimerais attirer notre attention sur la manière dont Pierre exhorte, encourage ses destinataires. Après tout, qu'est-ce qui distingue la lettre de Pierre d'un texte moraliste qui nous pousserait justement à adopter une bonne conduite? En quoi la lettre de Pierre est-elle différente d'un écrit de bonne morale pour des personnes qui voudraient adopter une bonne conduite? Eh bien, la différence est la suivante, c'est que Pierre fait référence constamment à Dieu. Pierre fait constamment référence à la relation des chrétiens à Dieu. Et voici quelques exemples. Verset 12, « Ayez une bonne conduite, afin que les païens glorifient Dieu au jour de sa visite. » Verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. » Versets 15 et 16, « C'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, et un peu plus loin, comme des serviteurs de Dieu. » Verset 17, « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Verset 18, « Serviteurs, soyez en toute crainte, si nous rattachons cette crainte à la crainte de Dieu, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. » Verset 19, c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20, si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et les versets 21 à 24 qui évoquent l'exemple de Christ. Sans toutes ces références à Dieu, les exhortations de Pierre ne constitueraient qu'une bonne morale que tout honnête homme, toute honnête femme pourrait respecter. Ce serait adopter une bonne conduite, mais pour de mauvaises raisons. Pourquoi mauvaises? Parce que Dieu serait mis de côté. Et comme je l'ai déjà dit, Pierre s'adresse à des chrétiens, à ceux qui font partie du peuple de Dieu, à ceux dont la vie est désormais en relation avec Dieu. Pour le dire autrement, les chrétiens doivent avoir une bonne conduite au milieu des non-croyants parce qu'ils sont le peuple que Dieu a racheté. Parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens doivent avoir une bonne conduite. Et en disant cela, eh bien, nous nous gardons de tout légalisme. Parce qu'à aucun moment, Pierre exhorte à avoir une bonne conduite en vue d'obtenir la faveur de Dieu, ou en vue d'obtenir son salut. À aucun moment, Pierre ne fait cela. Parce qu'en Christ, nous avons déjà obtenu sa faveur. Cela ne peut en aucun cas dépendre de ce que nous pouvons accomplir par la suite. Et il est tellement important, et c'est pour ça que je prends le temps d'insister là-dessus, il est tellement important que nous ne séparions pas l'exhortation et sa motivation. L'exhortation d'avoir une bonne conduite et la motivation de le faire par égard pour le Seigneur. Si nous ne tenons pas compte de cette motivation d'agir par égard pour le Seigneur, dans ce cas-là, nous tombons dans le moralisme, dans une bonne morale. Et ce n'est pas ce que Pierre veut faire ici. Ne séparons pas l'exhortation et sa motivation. Et je vais donner un exemple avec le verset 12, que je relis. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. L'exhortation est claire, ayez une bonne conduite. Et vous voyez ici au verset 12 la finalité. Pourquoi ? Afin que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, glorifient Dieu au jour de sa visite. Vous voyez l'enchaînement des idées. Ayez une bonne conduite afin que les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, glorifient Dieu au jour de sa visite. Le bien que nous pouvons pratiquer dans notre quotidien doit servir à orienter les regards vers Dieu et non pas vers nous. Qu'en voyant ces bonnes œuvres pratiquées par les chrétiens, les non-croyants glorifient Dieu. Et les commentateurs comprennent diversement l'idée de ce jour de la visite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est la référence au jour où Dieu intervient dans leur vie pour qu'ils puissent enfin ouvrir les yeux et se rendre compte que ce que font les chrétiens, c'est vraiment quelque chose de bien ? Ou est-ce une référence au jour du jugement de Dieu ? Lorsque tout sera clair, lorsque tout sera évident, lorsque tout homme reconnaîtra la justice de Dieu et reconnaîtra aussi que le peuple de Dieu est effectivement juste et ainsi lui rendra gloire. Dans tous les cas, ayons confiance que Dieu saura utiliser notre bonne conduite, une conduite qui nous distingue en tant que peuple de Dieu. Et malheureusement, comme l'indique l'apôtre Pierre, ce bien que nous faisons peut être critiqué. Le bien que nous faisons peut recevoir des critiques. Ce n'est pas parce que nous faisons quelque chose de bien qu'on va forcément nous féliciter. Mais la calomnie, le mensonge, arme du diable, ne doivent pas nous déstabiliser. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié. C'est cela qui nous motive dans le fait d'avoir une bonne conduite, c'est que Dieu soit glorifié et que tôt ou tard, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur reconnaîtront le bien que le peuple de Dieu fait. Tôt ou tard, que ce soit de leur vivant ou au jour où Dieu jugera. Tôt ou tard, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur reconnaîtront le bien que le peuple de Dieu fait. Et cela nous encourage à persévérer dans la pratique des bonnes œuvres. Parce que en tant que peuple de Dieu, nous avons en vue la gloire de Dieu. C'est cela qui nous intéresse. C'est cela que nous voulons viser. Voyons plus concrètement avec Pierre comment s'exprime cette bonne conduite dans la société. Et je m'intéresserai donc au verset 13 à 17. Ayons une bonne conduite dans la société. Et justement, comment évaluer une bonne conduite en société ? Avons-nous besoin d'être surveillés quasiment 24 heures sur 24 et de recevoir une note pour notre comportement comme cela existe déjà ailleurs ? Est-ce qu'on a besoin de cela ? Assurément, nous n'avons pas besoin d'un tel système pour bien nous comporter en société parce que Dieu nous dit déjà dans sa parole ce qu'il attend de nous. Nous n'avons pas besoin de caméras pour nous surveiller. Nous n'avons pas besoin d'un système de points pour nous dire si nous avons bien ou mal fait. Mais Dieu nous dit déjà ce qu'il attend de nous dans sa parole. Et les expressions que nous avons dans notre texte sont très larges. Avoir une bonne conduite. Il est question des œuvres bonnes, de faire le bien. Ce sont des expressions qui englobent tellement de choses. Et mise en rapport avec Dieu, cela comprend en fait tout ce qui plaît à Dieu. Tout ce qui est conforme à ses commandements, tout ce qui est conforme à sa volonté. Voilà comment nous pourrions résumer, si tant est qu'on peut résumer cela. Voilà ce que signifie avoir une bonne conduite. Tout ce qui plaît à Dieu. Et à partir du verset 13, nous retrouvons un genre bien reconnaissable dans certaines lettres du Nouveau Testament, notamment celle de l'apôtre Paul. Ce que nous appelons le code domestique. C'est-à-dire un ensemble de recommandations pour la vie familiale, que d'ailleurs nous trouvons également dans la littérature en dehors de la Bible. Le code domestique. Et ici, Pierre intègre la relation aux autorités politiques, versets 13 à 17. Et à cela, il ajoute la relation des serviteurs à leur maître, versets 18 à 25. Et puis une partie que nous ne traiterons pas aujourd'hui, et d'ailleurs qu'on a déjà traitée un peu plus tôt dans l'année, celle des époux, le rapport entre femme et mari. Au chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, nous sommes dans ce genre bien reconnaissable que l'on appelle le code domestique ou les tables domestiques. Et dans toutes ces situations sociales, la bonne conduite pour les chrétiens se traduit par une soumission volontaire. Soumission volontaire à ceux qui ont autorité dans la société ou dans la maison. À cause du Seigneur. Vous voyez bien, verset 13, à cause du Seigneur. Par égard pour le Seigneur. Nous offrons une soumission volontaire. Et en se soumettant, les chrétiens reconnaissent que l'ordre établi dans la société, l'ordre établi dans la maison, est voulu par Dieu. Que certains hommes ont reçu une autorité qu'il ne s'agit pas de contester. Qu'il s'agisse de l'empereur pour l'époque, des gouverneurs, qui sont présentés ici comme des garants de la justice, ou des maîtres, qui avaient des esclaves. Et ses maîtres, dont certains, étaient durs. Pour tous ces hommes, l'exhortation est la même. Soyez soumis. Et encore une fois, ce n'est pas une question de politesse ou une question de bonne éducation ou même de crainte des hommes. Ce n'est pas pour cela que nous nous soumettons, mais c'est par égard pour le Seigneur. Par égard pour l'ordre qu'il a instauré dans la société ou dans la famille. Les chrétiens agissent ainsi car ils comprennent que c'est ce que Dieu attend d'eux. C'est ainsi que le peuple de Dieu se comporte dans la société. Ils agissent comme des hommes libres en faisant le bien. Et c'est d'ailleurs une attitude qui s'étend à tous les hommes. Si vous regardez le verset 17, de part et d'autre, honorez tout le monde et honorez le roi. Et entre les deux, aimez vos frères, craignez Dieu. Parce que nous craignons Dieu, dans le sens où nous avons vraiment envie de lui obéir, où nous avons vraiment envie de respecter sa sainteté, eh bien nous honorons aussi les autorités. Et finalement, chaque être humain. Qu'il soit croyant ou non. Parce que nous craignons Dieu, nous honorons tous les hommes. Et la crainte de Dieu ici est première. Et les destinataires de Pierre devaient comprendre en même temps que la soumission à l'empereur romain ne pouvait pas aller jusqu'à lui rendre un culte. La crainte de Dieu est première. Et c'est la crainte de Dieu qui met une limite à cette soumission. Et pour autant, vous voyez que dans notre texte, nous n'avons aucun appel à la révolte, aucun appel au trouble de l'ordre public. Pierre n'appelle pas ses frères et sœurs à renverser le pouvoir. Et rappelons-nous que c'est Dieu qui élève et qui abaisse les rois, que c'est Dieu qui conduit le cours de l'histoire. Et que d'un certain côté, se soumettre aux autorités, c'est aussi avoir cette confiance en Dieu. Ce Dieu qui élève et qui abaisse les rois. Et à cet égard, nous pouvons être reconnaissants au Seigneur pour le travail effectué notamment par le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, qui propose, par exemple, eh bien, d'aider les églises à se mettre en règle administrativement par rapport à ce que demande la loi contre le séparatisme. Et c'est vraiment un sujet de prière que je vous soumets parce que notre Église planche aussi sur cette question-là. Nous avons un certain nombre de choses à déclarer et c'est devenu un peu plus strict. Mais nous voulons le faire, et notamment avec l'aide du CNEF. C'est un énorme chantier qui entre, me semble-t-il, dans cette attitude respectueuse des autorités. Cela dit, il faut admettre que dans une culture ambiante où il est si facile de critiquer le pouvoir en place, allant jusqu'à l'insulte, les menaces ou même l'atteinte à l'intégrité physique, grande est la tentation de ne plus rendre à César ce qui est à César. Grande est la tentation d'avoir la critique facile aussi vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent. Alors j'aimerais simplement que nous puissions prier dans ce sens-là, que Dieu nous donne la sagesse d'obéir à ces deux impératifs au verset 17. Craignez Dieu et honorez le roi. On a besoin de sagesse pour avoir du discernement et savoir jusqu'où nous pouvons effectivement nous soumettre. Nous avons d'abord insisté sur le fondement d'une bonne conduite. C'est-à-dire que c'est par égard pour le Seigneur, en tant que peuple de Dieu, que nous pratiquons le bien dans ce monde. Ensuite, nous avons vu une des expressions de cette bonne conduite dans la soumission aux autorités. Il nous reste à envisager une autre manière de bien nous conduire à la lumière de l'exemple de Christ. Et là, j'aimerais dire d'emblée que c'est la partie un peu plus difficile à accepter. Ayons une bonne conduite selon l'exemple de Christ, les versets 18 à 25. Je relis les versets 18 à 20. « Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. » En s'adressant spécifiquement à ceux qui travaillent pour un maître, Pierre exhorte également dans le sens de la soumission, par crainte du Seigneur, si nous le comprenons ainsi. Soumettez-vous à vos maîtres par crainte de Dieu. Et Pierre envisage le cas de maîtres difficiles, qui n'hésitent pas à infliger des coups. C'est ce que nous pouvons comprendre par l'allusion au mauvais traitement. Telle pouvait être la condition des esclaves. Et il semble qu'il arrivait pour les esclaves d'être maltraités alors qu'ils n'avaient pas commis de faute. Il arrivait que pour ces esclaves, peut-être chrétiens justement, de désobéir à leur maître qui leur demandait peut-être quelque chose qui allait à l'encontre de leur foi et de recevoir des coups parce qu'ils avaient désobéi. C'est injuste, n'est-ce pas ? C'est injuste de souffrir alors qu'on n'a rien fait de mal. Et pourtant, à deux reprises, Pierre l'envisage comme une grâce. Comment une telle situation peut-elle être acceptable ? Comment l'apôtre Pierre peut-il y voir une faveur imméritée de Dieu dans la souffrance ? Eh bien, la suite du texte nous en donne la réponse. Parce que accepter cette souffrance injuste, c'est marcher dans les pas de Jésus. Regardez le verset 21. « C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Christ aussi a souffert, et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. L'attitude de Jésus face à la souffrance injuste qu'il a subie nous est donnée en exemple. Et à l'époque, les serviteurs qui souffraient injustement devaient regarder à celui qui a souffert pour eux. Et vous lisez bien au verset 21 que souffrir injustement, tel est leur appel. C'est à cela que vous avez été appelés. Et si Pierre n'envisage ici que le cas des serviteurs, des esclaves, il reviendra plus tard dans la lettre sur ce thème de la souffrance injuste pour l'élargir à tous les chrétiens. Et je vous lis simplement une partie du chapitre 3 à partir du verset 13. « Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Verset 14. « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. » Et puis le verset 17, « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Donc là, cette fois-ci, ce propos est adressé à tous les chrétiens. Mais je reviens sur notre texte qui concerne simplement les serviteurs. Et si aujourd'hui nous n'avons plus d'esclaves dans nos communautés, nous pouvons penser à la relation entre employés et employeurs. Et je ne sais pas si parmi nous, certains souffrent de cette situation, de cette tension qu'ils peuvent connaître parfois avec leur direction, avec leur chef. Peut-être que, en vous disant tout cela, vous pouvez penser à ces moments où votre chef a été dur avec vous. Alors même que vous faisiez bien votre travail, alors même que vous ne causiez de tort à personne. Et c'est peut-être une situation que vous vivez en ce moment. Et je conçois que ce que l'apôtre Pierre dit ici nous semble difficile à appliquer. Et pour celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas ou plus dans la vie active ou qui ne travaillent pas pour un patron, eh bien réfléchissez aussi dans quel sens vous pouvez utiliser ce texte pour encourager celles et ceux qui souffrent dans ce domaine. Comment pouvez-vous encourager vos frères et sœurs qui connaissent ces difficultés, qui souffrent injustement au travail? Comment supporter de souffrir injustement? Comment cela peut-il nous apparaître comme une grâce? Eh bien, je répondrai avec les mêmes mots que l'apôtre Pierre. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous. Verset 21. Et dans les versets qui suivent, avec en arrière-plan Ésaïe 53, Pierre dépeint le portrait du serviteur souffrant, Jésus-Christ. Et évidemment, Jésus, son innocence est plus éclatante que la nôtre. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché. Son absence de réponse à l'insulte, son absence de réponse à la souffrance est expliquée par sa confiance absolue en son Père, celui qui juge justement, verset 23. Et en cela, Christ est un exemple pour notre foi, de nous dire « Je suis prêt à supporter injustement cette souffrance parce que mon sort est entre les mains de celui qui juge justement. » Et le verset 24 évoque le fait que Jésus a pris notre place en mourant à la croix pour nos péchés et que c'est ainsi que nous sommes guéris de cette maladie qu'est le péché, puisque désormais nous vivons non plus pour le péché, mais pour la justice. Et là, nous rejoignons le thème de la bonne conduite, de la pratique du bien. Nous vivons non plus pour le péché, mais pour la justice, grâce à Jésus-Christ. Et vous mesurez peut-être un petit peu à quel point, ici, ressembler à Christ prend un sens particulièrement concret. Lui qui a souffert injustement nous donne l'exemple de pouvoir aussi souffrir dans certaines situations, injustement. Marcher dans ses traces de cette manière-là, c'est notre appel. Pour le dire encore autrement, la principale motivation d'accepter une souffrance injuste, c'est le fait de suivre Christ, notre modèle parfait. Et peut-être que si aujourd'hui vous ne vivez pas une telle situation et qu'à l'avenir, cela devait vous arriver, de subir des torts de la part de votre direction d'une manière injuste, n'oubliez pas ce texte. Et surtout, n'oubliez pas votre Seigneur. De même que Jésus n'a pas saisi le prétexte de la souffrance injuste pour se livrer à la méchanceté, de même, ne cédons pas au mal, mais poursuivons le bien, même dans de telles situations. Et j'ai bien conscience qu'en disant cela, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je vous ai dit que cet enseignement-là est bien difficile à recevoir. Et encore une fois, nos souffrances n'ont bien sûr pas la même portée que les siennes. Mais Jésus nous comprend en ce qu'il a aussi souffert et qu'il a accepté pour nous. Pierre ne promet pas que vivre dans un monde qui ne connaît pas Dieu est facile. Parce que dans un monde marqué par le péché, même le bien que nous faisons est critiqué. Et parfois, même un travail bien fait et en toute bonne conscience devant Dieu peut nous attirer des ennuis. Et nous pouvons souffrir injustement à cause de cela. Pourtant, le Seigneur ne nous demande pas de changer de ligne de conduite, quelle que soit la situation. Il s'agit toujours d'avoir une bonne conduite. N'oubliez pas, c'est en tant que peuple de Dieu, par égard pour Dieu, qu'il s'agit pour nous d'avoir une conduite bonne et respectueuse au milieu des non-croyants, y compris quand nous souffrons injustement, comme Christ nous a donné l'exemple. Je répète, en tant que peuple de Dieu, ayant constamment une conduite bonne et respectueuse au milieu des non-croyants, y compris quand nous souffrons injustement, comme Christ nous en a donné l'exemple. Il me semble que c'est le message de notre texte. Et assurément, nous avons particulièrement besoin de nous laisser transformer par le Saint-Esprit, afin qu'il nous rende capables de bien appliquer la parole de Dieu que nous avons entendue aujourd'hui. À lui la gloire. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta grande compassion. Parce que dans ta grande compassion, tu nous as appelés à toi. Tu nous as accordé une vie nouvelle, une espérance vivante, un héritage qui ne peut pas se détruire. Avec cette assurance que tu nous gardes jusqu'au jour où le salut à venir sera révélé. Merci parce que nous faisons partie de ton peuple. Et quel privilège pour nous, quelle grâce. Mais nous sommes aussi conscients que ce que tu nous demandes n'est pas forcément facile à vivre. De pouvoir, en toutes circonstances, avoir une bonne conduite dans cette société. Dans cette société où beaucoup ne te connaissent pas, où beaucoup te rejettent, où beaucoup sont hostiles aux chrétiens. Mais malgré tout, Seigneur, toi qui nous as placés dans ce monde, tu nous demandes d'avoir une conduite intègre, par crainte de toi, par égard pour toi. Oui, tu nous demandes cette soumission aux autorités, cette soumission à ceux qui nous emploient, à nos chefs, à nos patrons, à différentes autorités qui peuvent être au-dessus de nous. Et tout cela par égard pour toi, Mais c'est particulièrement difficile lorsque nous considérons des situations où nous pouvons souffrir injustement. C'est particulièrement difficile parce que, précisément dans ce que nous venons de lire cet après-midi, tu nous demandes de le supporter. Comme Christ a supporté injustement toutes les souffrances qu'il a dû subir à cause de nous. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous accorder la force aussi, face à de telles situations, de pouvoir supporter ce qui, en temps normal, serait insupportable. Parce que nous voulons suivre les traces de Christ, parce que nous voulons marcher à sa suite, parce que lui a accepté de souffrir pour nous. Et nous savons à quel prix, et nous savons jusqu'où. Et c'est pour cela que nous voulons encore t'exprimer toute notre reconnaissance, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Merci parce que c'est avec toi, et seulement avec toi, que nous pouvons rendre un bon témoignage dans ce monde. Et que, en tant que peuple de Dieu, nous pouvons vraiment faire une différence. Oui, nous avons cette assurance, cette espérance aussi, que notre bonne conduite, tu sauras l'utiliser d'une manière ou d'une autre, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent, au final, te rendre gloire. Alors, nous voulons aussi te célébrer pour cette sagesse incroyable que nous trouvons dans ta parole. Et nous avons encore besoin d'apprendre et de nous laisser façonner par toi. Veuille nous aider. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions ensemble. Amen.